おかしいおかしい
Je vous invite à suivre l'émission de le ventre congolais avec la langue.
Bonsoir, Assemblée nationale, adoption des projets de loi sur le Conseil supérieur de la défense, les forces armées congolaises et l'Organisation générale de la défense. Quelles sont les grandes lignes de ces lois? Quel pourrait être leur apport dans la réforme de l'armée congolaise? Nous recevons comme invité Mohamed Bouli, député national MRC et rapporteur de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Honorable, bonsoir.
Bonsoir.
André Alain Atundu Liongo, président national de la Convention pour la démocratie et la République, parti de la majorité présidentielle, ancien chef des services de renseignement du Zaïre et ancien ambassadeur du Zaïre au Rwanda. Monsieur Atundu, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Juvenal Mounougo Mouzi, analyste politique et point focal Nord Kivu du réseau de la société civile pour la réforme du secteur de sécurité en RDC. Il est en ligne. Maître Juvenal Mounougo, bonsoir. Merci beaucoup. Vos réactions, chers auditeurs, comme d'habitude, nous les avons déjà. Antipas Kanef de Kalimio Katanga, la réforme de l'armée est la bienvenue, mais je pense que le gouvernement congolais doit également penser à l'amélioration des conditions salariales de nos militaires qui laissent à désirer. Raymond Bouy de Mbujima et Okassa Oriental, tout ce que nous voulons, c'est l'application stricte de cet arsenal qui vient encore une fois d'enrichir le cadre juridique des forces armées de la RDC. Nous voulons que notre pays soit doté d'une armée républicaine forte, dissuasive, disciplinée et bien équipée, capable de défendre à tout moment l'intégrité territoriale. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Trois projets de loi relatifs à la réforme de l'armée congolaise ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Il s'agit de projets de loi organiques portant organisation et fonctionnement des forces armées, celui de l'Organisation générale de la défense, ainsi que le projet de loi portant organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la défense. Quelles sont les grandes lignes de ces trois projets? Julien Nyamwani, bonsoir.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Il faut tout d'abord préciser que le premier projet de loi qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale remplace la loi numéro 04/023 du 12 novembre 2004 portant organisation générale de la défense et des forces armées. Cette loi, disais-je, tenait compte des composantes nées de belligérants ayant combattu sur le territoire national entre 1998 et 2003. Ceci dit, ce projet de loi tient compte des expériences passées et récentes des FRDC. Il prend en considération l'importance géostratégique et politique de la RDC. À la suite de la promulgation de la loi fondamentale du 18 février 2006, il était apparu impérieux d'adopter une nouvelle loi qui répond globalement aux exigences d'une armée nationale républicaine, apolitique et soumise à l'autorité civile.
Alors, Julien, que peut-on retenir du projet de loi sur l'organisation de la défense?
À propos justement du projet de loi sur l'organisation générale de la défense, celui-ci définit clairement les institutions et les structures de la défense qui sont impliquées dans la gestion de l'armée nationale. À ce sujet, il faut préciser que le président de la République, le Parlement, le gouvernement et le Conseil supérieur de la défense constituent des institutions politiques, tandis que le haut commandement militaire est une structure militaire. Il faut noter que le projet de loi relatif au Conseil supérieur de la défense définit de manière claire les attributions et décrit la composition de cette structure, de sorte qu'il ne peut y avoir la confusion. Pour rappel, ce conseil avait été mis en place pendant la transition. Il comprenait aussi les quatre vice-présidents. Aujourd'hui, la présidence de ce conseil est confiée au chef de l'État. En cas d'empêchement, c'est le Premier ministre qui assure la présidence de ce conseil.
Merci Julien Nyamwani et bonne soirée.
Merci Alain.
Honorable Mohamed Boulay, je rappelle que vous êtes rapporteur de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme nouveauté dans ce projet de loi qui ont été adoptés?
Merci beaucoup. L'intervenant de tout à l'heure a bien précisé la chose et c'est comme s'il était avec nous. Nous voulons que les choses soient claires parce que en ce qui concerne ces lois, ces projets de loi, initiée directement par le gouvernement, c'est l'émanation même de certaines dispositions pertinentes et intangibles de la Constitution. Mais il fallait bien que le gouvernement puisse rapidement mettre en œuvre pour nous préparer et déposer. Maintenant, ces choses faites, parce que, vous savez, d'abord, j'ai commencé par la dernière, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la défense, que nous avons eu le plaisir de voter aujourd'hui parce que le quorum était atteint. Nous ne l'avons pas fait, faute techniquement des moyens qui pouvaient nous permettre de travailler dans les bonnes conditions. Mais je dois dire que depuis que les forces armées de la République démocratique du Congo, il faut que je le souligne, c'est la première fois que cette institution politico-militaire, du reste, puisse disposer d'un texte qui puisse permettre à ce que les choses soient faites de manière harmonieuse et de manière légale. Il reste bien entendu que les essais réglementaires viennent compléter cela, c'est-à-dire le règlement d'ordre intérieur, pour permettre aux uns et aux autres d'agir conformément aux dispositions de cette loi. Mais les autres, parce que on a évoqué la loi 04/023 du 12 novembre. Évidemment, il y avait un peu de méli-mélo. Il y avait une loi qui comprenait des rapports avec la défense et les forces armées. Cette fois-ci, parce que notre constitution précise qu'il faille, parce que c'est la constitution qui construit les caractères d'une loi, qu'elle soit organique ou ordinaire. Et nous avons coupé la poire en deux par rapport au projet de loi qui nous était présenté par le gouvernement, et de dire que maintenant, il faut une loi à celle du Conseil de la Défense et des Forces armées. Et c'est ce qui est fait ici, et dans le corps de ce projet de loi que notre Chambre a adopté, tout est bien précisé. Mais c'est la première lecture parce que l'Assemblée nationale a été saisie en la première. Maintenant que nous avons la commission permanente technique à examiner et fait les rapports à la plénière, et que la plénière a ensuite adopté les rapports, et voilà qu'en examinant article par article de ce texte qui était proposé, on est passé à l'adopter au vote. Donc en seconde lecture, le Sénat va l'avoir. Et c'est le Sénat, s'il n'y a pas de divergence, il ne sera pas question en ce moment-là de pouvoir envisager la commission paritaire et la loi sera envoyée, une fois adoptée, par un texte en termes donc commun au président de la République pour la promulgation, encore que la Cour suprême de justice se prononce.
Alors, si nous prenons par exemple le projet de loi portant organisation et fonctionnement des forces armées, dans la partie concernant l'affirmation de l'état des droits, je note par exemple que cette loi fait référence à l'obéissance par le personnel militaire à l'autorité civile constitutionnellement établie, et ce à quelque niveau que ce soit du pouvoir. N'est-ce pas ce qui se passait déjà, ou est-ce que c'est une nouveauté?
Mais il faudrait l'affirmer, parce que ce texte de loi, si on voit très bien, certains juristes, la lecture est assez abondante, parce que le texte qui nous régit aujourd'hui, le plus ancien date de 1883, si ma mémoire est bonne, je crois vers le mois d'avril. Et on continue à les adapter à tout ça. Même cette loi-là, il n'y a pas complètement des choses qui ne sont pas revenues dans la loi que nous avons eu à examiner et à l'adopter aujourd'hui. Et donc, c'est cela qui dit qu'un état de droit, il ne faudrait pas que les militaires considèrent que le civil n'a pas le droit à s'y soumettre. Il faudrait mettre donc les cadres dans lesquels et les garde-fous pour dire si vous n'obéissez pas dans ces conditions-là, vous êtes poursuivable par les juridictions militaires. C'est ce que nous voulons, et c'est ce que cette loi affirme.
Bon. André Alain Atundu venait de suivre l'honorable Mohamed Boulay, pour qui toutes ces lois précises dressent le cadre juridique au niveau des forces armées. Quelle est votre analyse?
Bon, d'abord, je voudrais féliciter l'effort de normalisation fait par nos députés.
parce que cette panoplie de lois est comme une réponse appropriée, sinon attendue, à la problématique d'un pays post-conquis, où, en réalité, il s'agit d'éliminer complètement le rôle, voire l'influence des anciennes rébellions, de leurs chefs, en criminalisant une telle allégeance. Ça, c'est une confirmation de ce que nous avons affirmé dans notre Constitution, et voilà que ça s'applique dans une loi organique, une loi spécifique. Autre avantage, c'est que cette loi a apporté une solution à un certain nombre de problèmes pratiques. D'abord, elle a consacré l'unité physique de l'armée, ensuite l'unité psychologique, qui implique la disponibilité de nos troupes. Vous avez suivi les dernières hésitations de ceux qui ne sont pas vraiment dans la logique des choses, en refusant de quitter le Kivu, et l'unité de commandement. Alors ça, c'est très important, parce que nous atteignons là une phase de normalisation, afin que les forces armées servent cette fois-ci de vrais bras à l'exécutif pour la défense de notre territoire, la défense de nos populations, la défense de nos intégrités, la défense de notre intégrité, et remplir notre mission de solidarité pour pouvoir aider ceux de nos partenaires ou alliés qui auraient besoin de nous. Voilà le côté positif de cette armée, enfin de cette loi.
Mais quand vous dites que les forces armées servent effectivement de vrais bras à l'exécutif, quelle serait la limite entre la collaboration, la simple collaboration et la politisation de cette armée? Donc l'on veut, voudrait bien sûr la politique.
Mais la politisation, c'est donner à une armée une mission de sensibilisation politique. Comme dit quand dit un père, eh bien, le premier critère, après la compétence, c'était le militantisme. Donc il faut laisser les forces de défense, les forces de police, les forces généralement au service de la communauté, il faut les laisser leur neutralité de profession. C'est ça, une armée professionnelle, une armée républicaine, une armée apolitique.
Alors, quelle serait à ce moment-là la démarcation avec une armée au service des individus?
Mais, référez-vous à notre histoire, l'armée de MLC était au service de Demba, l'armée du RCD était au service de Roubaix-Rois, l'armée du RCD KML était au service de Boutanyamoussi, etc.
Ou la gouvernementale au service.
Non, ça c'est dans sa mission républicaine. Et la conséquence, c'est que pour réussir l'unité physique de l'armée, il a fallu satisfaire ses chefs et sa rébellion et ne pas couper l'union ombilicale. Hein, c'est ainsi que certains disaient, ben moi, je dépends d'abord de tel, je dépends d'abord de tel. Nous avons fait un long chemin de débarras psychologique qui nous a amené aujourd'hui que les gens acceptent et trouvent normal que les forces armées ne dépendent que du chef de l'État élu. C'est ça le caractère républicain de l'armée. Dépendre de l'autorité élue et légale.
Maître Juvenal Monobomoubi, vous êtes analyste politique, point focal en Nord Kivu, du réseau de la société civile pour la réforme du secteur des sécurités. André Alain Atundu parle de la normalisation, il se réjouit de cette normalisation. Quelle est votre analyse à vous?
Je voudrais tout d'abord saluer cette avancée remarquable, parce qu'il faut considérer que c'est un pas dans le processus de la réforme de l'armée congolaise, l'armée qui est une composante du secteur de sécurité. Je voudrais donc saluer cela et je m'inscris tout à fait dans la logique de M. André Atundu qui considère que c'est dans le processus de normalisation. Je crois que c'est une façon d'adapter cette loi organique à la Constitution pourquoi? Parce qu'il y a eu des changements depuis l'ancienne loi qui régissait ce secteur, donc la loi du 12 novembre 2004. Et donc, il y avait un souci réel d'adaptation par rapport à la confiance, mais aussi un souci justement de rendre notre armée professionnelle. Pourquoi? Parce que notre armée a connu beaucoup de secousses, a fait face à beaucoup de rébellions, et sa configuration actuelle, c'est que c'est une armée atypique, à pyramide renversée, où on trouve beaucoup plus d'officiers que des hommes de troupes. Eh bien, des solutions à tout ça, le besoin de défense, le besoin de sécurisation de la population, ça valait la peine que sur le plan cadre juridique, qu'on ait une loi. Et ça, c'est un pas, qu'on ait une loi, mais je vais souligner ici que la loi ne suffit pas. Pourquoi? Parce que la réforme a plusieurs aspects. Et la réforme ne peut pas se résumer en une loi. La loi existe, mais les forces qui restent se dérangent. Cette loi, de la traduire en réalité. Et nous allons y revenir, je crois, au cours de cette émission. Pourquoi? Parce que les défis sont des failles qui s'imposent à notre armée, et ces défis doivent être relevés dans le cadre de cette réforme.
Alors, Maître Juvenal, vous dites que la loi à elle seule ne suffit pas. Il y a des auditeurs, Calais à Marcel de Boutembonor-Kivu. Cette loi ne restera-t-elle pas lettre morte, comme celle concernant l'opposition et tant d'autres? César de Bougnan, province orientale, tacitement, l'adoption de cette loi est la bienvenue, mais l'inquiétude demeure dans la mise en application, qui est toujours hypothétique quasiment dans tous les secteurs de notre pays, faute de volonté politique. Ambroise, il y a venant Wabilo de Matadi, espérons que cette fois-ci l'exécutif pourra suivre les recommandations qui seront faites par l'Assemblée nationale sur ce voie, surtout que le domaine de l'armée est un domaine tellement important dans notre pays pour sécuriser la population. Il y a encore et toujours cette crainte au niveau de la population quant à l'exécution même de ces lois.
Je pense que la crainte est bien fondée, Alain. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses en réalité qu'on reproche à notre armée actuellement. Il y a tout d'abord cet esprit des corps qui n'est pas encore effectif. Il y a, par rapport au patriotisme, il faudrait qu'il y ait évidemment d'allégeance par rapport entre nos forces armées, également des forces armées et l'État congolais lui-même. Donc, il y a tant de problèmes. Il y a quelques plaintes parfois par rapport à la solde des militaires, des cas de détournement, l'équipement qui n'est pas bien maintenu. Bref, il y a beaucoup de problèmes. Tantôt notre armée est accusée de violences sexuelles. Bref, il y a beaucoup de choses à faire, et tout ça, je considère comme étant des défis, et la loi seule ne suffit pas à relever tous ces défis-là. Il faudrait tout un plan d'action, il faut tout un cadre de mise en œuvre de la réforme, il faut justement tout ça pour qu'on arrive à élaborer ce qui existe dans d'autres pays, ce qu'on appelle la politique de défense. Il faut que l'État ait toute une politique de défense, avec des stratégies de défense, et dans tout ça, il faut aussi développer un secteur clé au niveau de l'armée, c'est l'éducation civique. Il faudrait que les militaires soient éduqués aux droits humains, à la lutte contre les violences sexuelles, les droits de l'enfant, tout ça, même le développement. Il faudrait aussi que notre armée soit au service de notre développement. Alors, tout ça, ce sont des défis, il faut donc du travail. C'est vrai que le voyage de 1000 km commence par un pas. Je considère que l'adoption de cette loi, là nous sommes en train de marquer le pas, reste à ce que cette loi soit promulguée. Il n'y a pas que celle-là portant organisation et fonctionnement des FARDC. Vous avez cité aussi la loi portant organisation générale de la défense et la loi sur le Conseil supérieur de la défense. Il faut alors passer à d'autres étapes, surtout la mise en œuvre par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que les défis sont des tas, il faut vraiment l'avouer. Faire face aux groupes armés, faire face... la sanction elle-même, la lutte contre l'impunité, je le disais tantôt. Et je crois que un point culminant de cette réforme devra être l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. Pourquoi? Parce que le militaire, c'est un homme, il a une famille. Mais lorsque le militaire touche la solde, lorsque vous équivalez 100 $, ça n'atteint même pas 60 $, vous comprenez, lorsqu'il a une grande famille, et puis... ses dits mensuels ne les reçoit pas régulièrement, vous voyez vous-même que ce militaire risque de perdre de la motivation nécessaire. Donc c'est un homme. Il faudrait arriver justement à voir dans quelle mesure améliorer les conditions de travail, les conditions de vie de ceux qui sont là-bas, engagés par l'État pour la défense des intérêts vitaux de la nation.
Merci.
Donc, ce soir.
Merci, Maître Juvenal Monobo. Honorable Boulet, avant de vous donner la parole, prenons ces deux questions auditeurs.
Il y a beaucoup de lois qui sont érigées, mais qui ne sont restées de l'être mort ou de slogan à cause de leur inapplicabilité. Et est-ce que cette dernière loi sera d'application pour la refondation de l'armée? Alors, si c'est oui, qu'est-ce qui le cause?
Les armes dans la Kempoulia, s'agissant la personne de cette loi est la bienvenue. Cependant, les études de l'air dans la mise en application qui est toujours hypothétique, quasiment dans tous les secteurs de notre pays, faute de la volonté politique.
Bref, réaction par rapport à ces réactions, honorable Boulet, et puis vous ramassez également les propos de André Alliance Dondou et de Maître Juvenal Monobo.
Merci beaucoup, mais ne transforme pas notre histoire. Je voudrais partir de la création des forces armées depuis l'époque coloniale, c'est-à-dire les forces publiques, où nous avions une armée au départ de mercenaires, des Scandinaves, l'histoire, et l'écriture est assez abondante en ce sens-là. Mais je dois rappeler ici que à l'époque d'avant l'indépendance, on a éduqué les militaires à être ce qu'on appelait les autres des bassins. Mais vous approchez pas d'eux, c'est comme ça que les camps militaires, au nombre desquels je les connais parfaitement bien, ont été créés, et vous voyez l'animosité qui a existé entre les éléments de la force publique. On n'a pas voulu que ce soit une armée, mais une armée chargée à la fois du maintien de l'ordre public et ainsi de suite. Mon estimé frère, Pindou, le sait aussi bien. Et lorsque nous passons, après l'indépendance, on passe de la force publique à l'armée nationale congolaise, l'esprit reste le même, avec le premier rébellion de 64 qu'on a su bien maîtriser, parce que ça n'avait pas pris l'ampleur. Notez aussi qu'en ce moment-là, on est passé des 14 millions d'habitants, selon les estimations. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Est-ce que les rapports, en ce qui concerne l'intégrité du territoire, en ce qui concerne la protection, l'intangibilité de notre territoire, la porosité de notre territoire, est-ce qu'il répond? Je dis non. Et en même temps aussi, en ce qui concerne le métier de l'ordre public, la police, les rapports entre ce qu'un policier peut assurer par rapport au nombre de populations, je dis non. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu tronqué l'histoire pour dire. Hier, on a connu des groupes armés créés des fêtes de mécontentement, ce n'est pas la population, que tel groupe répond à X, Y, je ne vais pas citer les noms ici, mais ce n'est pas ça. Nous avons recherché l'unité. Nous avons recherché de façon à ce que nous puissions avoir une armée qui puisse assurer. Autrefois, nous étions craints. J'avais dit ici, avec mon estimé collègue, mon frère ici, que autrefois nous avons assuré la formation de certains pays, que je me permets de ne pas les citer ici. Je suis un professionnel, je suis un instructeur à la base de Kitona, où je suis arrivé comme recrue et que je prenais un bon seau et que je prenais 3 repas jour et que je dormais dans les bonnes conditions soignées. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive que aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes? Mais je ne voudrais pas dépasser pour aller au-delà, parce que nous avons bénéficié. La guerre froide étant terminée, je ferme juste la boucle pour dire, nous, hier, les points de référence, centre de l'Afrique se trouve dans notre pays, c'est à Niangara. Mais lorsqu'on se rendait compte que autour de nous se trouvaient des pays satellites, à une certaine opinion, guerre froide et tout ça, il fallait pas permettre à cette opinion-là, parce que nous étions entourés de presque tous nos pays, il ne restait que le Congo. Et alors, je voudrais dire que ceux qui sont intervenus ici ont raison d'avoir des craintes. Nous voulons dire, ces lois ici ne ramassent pas tout. Il y a des textes réglementaires qui doivent compléter cela. En ce qui concerne le salaire et tout ça, ça va se retrouver dans une loi essentielle que nous attendons, qui a été déposée en première lecture au Sénat, c'est-à-dire les statuts. C'est là où on va tenir compte de tout cela, le recrutement, la période de service actif et la pré-armée. C'est cela qui va nous permettre d'examiner pour que tout ceci. Je suis très content que ces lois essentielles soient votées. Il reste maintenant le statut, parce qu'il faut tenir compte de cela, parce que l'armée n'a pas besoin de se syndiquer,
et encore moins la police. Alors, c'est cela que nous attendons.
André Alain Atundu, alors, quel pourrait être l'apport de ce projet de loi dans la réforme de l'armée congolaise? Vous aviez déjà commencé à parler de normalisation.
Oui.
En plus de la normalisation, que faut-il?
Cette loi est un pas de plus dans la normalisation. La normalisation commence par notre vision constitutionnelle. Et une armée républicaine, une armée en politique, de professionnels, c'est notre vision, je veux dire, constitutionnelle. Et la constitution doit être précisée par des lois organiques, par des lois, etc., spécifiques. Et ça est le cas. Mais je suis, j'ai noté que le docteur Juvenal et l'honorable Boulet ont dit, en réalité, que la loi ou les lois étaient bien faites, mais étaient incomplètes. Et moi, je vais même approfondir en disant que les lois sont bonnes, mais incomplètes dès l'origine. Parce que qu'est-ce que c'est que la défense d'un pays? La défense d'un pays, c'est la réponse à l'environnement, les voisins, leur attitude vis-à-vis de vous, votre attitude vis-à-vis de voisins. Et à partir de là, vous concevez une politique de défense. À partir de cette vision, vous devez d'abord avoir une idée stratégique, c'est-à-dire une idée de ce qu'il vous faut pour vous défendre. À partir de cette idée, vous élaborez une philosophie de la défense. Voilà, nous allons nous défendre comme ceci ou comme cela. Et après, vous élaborez une doctrine de la défense. Une doctrine de la défense conséquente. Enfin, vous élaborez la politique générale de l'armée qui est dans ce processus-là. Or, ici, notre idée stratégique de base n'est pas clairement affirmée. Je vais vous donner quelques idées stratégiques de base. C'est par exemple qui veut la guerre prépare la qui veut la paix prépare la guerre, n'est-ce pas? Ou bien l'attaque est la meilleure défense. Ou bien le bon voisinage, comme on a eu à un moment donné ici. Ou bien la force dissuasive, comme la France. Nous ne voyons pas sortir cette idée de base, cette idée mère qui doit nourrir toute notre architecture, d'abord toute notre pensée et notre doctrine sur la défense et nourrir toute l'architecture.
Et c'est à quel niveau que ça devrait se faire?
Non, je pense que ça devrait être au niveau comment vous dites, au niveau du Conseil supérieur de la défense, je pense. Parce que dans le rôle de ce conseil, c'est notamment élaborer une politique générale, les principes, etc. Et ça, je n'ai pas noté. Aussi, il y a quand même quelques éléments qui devaient être présents aussi au Conseil de la défense. Parce qu'aujourd'hui, les services de renseignement, c'est quand même un pan de la défense. N'est-ce pas? Aujourd'hui, la santé publique, c'est quand même un pan de la défense. Parce que vous pouvez avoir toute la doctrine que vous voulez, les armes que vous avez. Si les militaires ne sont pas en bonne santé, si la population qui sert de matrice à l'armée n'est pas en bonne santé, donc ça va de soi. Et un peu subsidiairement l'environnement. Donc il faudrait que, je pense, il n'aurait pas lu, ou il faudrait étoffer un peu plus notre Conseil supérieur de la défense et élargir même le concept de défense. Parce que notre ministère de la défense est en réalité le ministère des forces combattantes et des anciens combattants. Or, la défense d'un pays, c'est aussi les forces de l'ordre, c'est aussi les services de renseignement, c'est aussi la défense civile, c'est aussi la protection civile, c'est la santé. Alors, il faut intégrer tous ces éléments-là et avec le temps, parce que je comprends bien qu'on ne peut pas tout faire en même temps, nous risquons d'avoir une indigestion, n'est-ce pas, mais il faudrait avoir cette vision que nous devons compléter ces différentes lois de façon à les rendre beaucoup plus actuelles et beaucoup plus fonctionnelles.
Maître Juvenal, vous venez de suivre André Alas Atondou quant à l'apport de ces lois dans la réforme de l'armée congolaise. Il pense qu'il faudrait élargir le concept de la défense et renforcer l'idée stratégique de base.
Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce qu'il existe des concepts, justement, lorsque, dans les domaines de la défense, des concepts tels que, il faut d'abord qu'on ait une compréhension claire de ce qu'on appelle intérêts fondamentaux de la nation ou intérêts vitaux de la nation. Je pense ici à l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire, la forme républicaine des institutions, les moyens de défense, la protection des populations, des groupes vulnérables, l'équilibre de l'environnement, le potentiel scientifique, économique, artistique, tout ça fait partie des intérêts vitaux. Il faut d'abord avoir un même entendement de ça. Et je pense qu'il y a d'autres concepts d'application, justement, lorsqu'on élabore une politique de défense. Il y a, par exemple, le concept de stratégie militaire, c'est-à-dire l'art de concevoir et d'utiliser, de mettre en œuvre les ressources en vue de défendre le territoire. Et tout ça, il faut d'abord qu'on ait une compréhension commune là-dessus. Je fais confiance, effectivement, aux experts du gouvernement, ainsi que à ceux de la communauté internationale dans ce partenariat qui existe. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive tout d'abord à avoir à définir une vision, comme l'un de nos prédécesseurs le disait. Il faut avoir une vision. Ce que nous voulons de l'armée congolaise, hein, après 10 ans, parce que c'est aussi ça ce qui avait été annoncé lorsque ce projet de loi qui a été adopté, qui venait de se poser, lorsque ça avait été déposé par le ministre de la Défense, eh bien, il avait évoqué un plan sur 10 ans. Et dans ce plan de 10 ans, quelle est la vision? Quels sont les indicateurs pour qu'on se dise, voilà, 10 ans après, nous avons atteint telle étape de l'évolution des choses? Il faut savoir ici que l'armée, c'est un pilier de l'État, c'est le rempart. L'armée, c'est même le symbole de la fierté nationale. Et l'armée est même au service de la diplomatie. Si vous voulez avoir une diplomatie forte, il faut aussi avoir une armée forte. Bien évidemment, je suis pacifiste et qui veut la paix, on la paix. Mais il faut faire attention, il faudrait, lorsqu'on veut la paix, qu'on recherche à travers la diplomatie, eh bien, il faut aussi avoir une armée. Pourquoi? Parce que l'armée vous crédibilise, remonte la fierté nationale. Donc, il faudrait qu'on ait une compréhension commune, qu'on ait un plan d'action, comme je le disais, avec un chronogramme, avec une estimation du coût que cela va avoir coûté. Il faudrait, par exemple, que le ministre de la Défense nous dise, ça coûtera combien pour qu'on arrive justement à achever ce processus de la réforme. Bien évidemment, dans la vie, on ne fait qu'améliorer. On ne dira pas que, voilà, on a atteint des paroxysmes, même des grandes nations comme les États-Unis, je crois, ils continuent toujours à réformer leur système de défense. Mais il faudrait qu'on ait tout ça. Qu'on ait la loi, bien évidemment, qu'on ait un plan d'action, qu'on ait un chronogramme bien suivi, qu'on ait des indicateurs et qu'on ait justement une vision commune partagée au niveau des institutions sur ce qu'on entend par politique de défense.
Honorable Mohamed Boulé, la loi à elle seule ne suffit pas. Que faut-il de plus pour réaffirmer ou renforcer la réforme de l'armée congolaise par rapport aux éléments avancés sur ce plateau?
Mais cette réforme trouve bien des réponses dans la loi organique et portant l'organisation et fonctionnement des forces armées. Je voudrais dire ici, parce que les uns et les autres n'ont pas les textes pour pouvoir se rendre compte, mais en ce qui concerne les problèmes de santé, ça trouve la préoccupation, parce que s'agissant des grandes unités, on catégorie, on a codifié au moins six grandes unités dans les corps que je ne peux pas me permettre ici, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire celle que les défenses, les numériques, le corps de santé se trouve là-bas, le corps de logistique se trouve là-bas. C'est ce qui fait parce que lorsque on crée une armée, lorsqu'on désigne un chef d'une mission, il faut des moyens. Je suis parfaitement d'accord, la géostratégie, ce n'est pas ça. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la loi qui est abrogée 04 de 2004, a fait un peu de mélimélo et nous avons cédé cela, la défense d'un côté et les forces armées d'un côté. Nous savons de quoi nous parlons. Mais en ce qui concerne les coûts, évidemment, ce n'est pas dans la loi qu'on doit préciser.
parce que dans les concepts que nous avons bien, les concepts proposés du reste par le gouvernement, on trouve là-bas tous les concepts possibles, les forces armées, les définitions, les doctrines de l'armée, la stratégie militaire, l'armée professionnelle, républicaine, nationale, politique et ainsi de suite, compris même, non, je voudrais ramasser tout ça, y compris même la préoccupation en ce qui concerne les coûts, parce que c'est au gouvernement de venir présenter, outre le budget national ordinaire, une loi de programmation militaire pour pouvoir répondre à cela. Et donc, ce n'est pas ici, ce n'est pas dans les poids de la loi qu'on peut et donc, mettre cela. C'est ce que je voudrais souligner.
Alors, Maître Juvenal a dit à un certain moment que nous avons une armée atypique avec beaucoup d'officiers, plus d'officiers que d'hommes de troupes. Est-ce que cette loi permet, par exemple, de résoudre ce problème?
Elle ne le permet pas. Dans la mesure où nous attendons, je l'ai dit ici, le statut général des forces armées, parce que cela impose une unité. C'est là où nous allons voir. Je ne peux pas me permettre ici de mettre le but devant la charrue, parce qu'il faudrait la monographie d'emploi. On dit qui peut être le chef d'état-major général, sa qualification, le grade qu'il peut avoir jusqu'au dernier militaire, jusqu'au planton. En ce moment-là, nous savons que pour les forces armées, à différents niveaux des quartiers généraux, que ce soit l'état-major général, des forces, et on descend en région militaire, brigade jusqu'au bataillon, unité, il faudrait une qualification donnée. Et en ce moment-là, nous allons nous apaiser parce que doivent accompagner ces lois les organigrammes. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons? Une compagnie, par exemple, je ne peux pas ici définir, je le sais. Je ne peux pas non plus définir une compagnie d'infanterie par rapport à X, la force aérienne, ainsi de suite, je le sais. En ce moment-là, nous allons nous en tenir pour dire, étant donné que nous avons cette population-là, nous avons cet espace à défendre, voici ce qu'il nous faut, et nous présentons, c'est au ministère de la Défense, ce n'est pas à nous, de présenter la facture au gouvernement, de défendre bec et ongle, et en ce moment-là, on exprime ça par des moyens conséquents, c'est-à-dire l'argent.
André Alain Atundu, il y a cet auditeur El Maho, il y a Kiwongi, qui est à Oslo en Norvège, qui dit « Pourquoi les chefs de service de renseignement militaire intérieur et extérieur ne font pas partie de ce Conseil supérieur de la défense ? Il vous rejoint pratiquement quand vous parliez d'élargir le concept de la défense. »
Absolument, je crois qu'il a raison. C'est que dans d'autres pays, même, je crois, les services de renseignement, c'est un état-major en particulier. Et donc, ça dépend de la vision. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit qu'il est important peut-être d'expliciter l'idée stratégique de base et notre doctrine pour comprendre que pour nous, les renseignements ne font pas partie parce qu'ils sont dispersés, etc. Je voudrais surtout rencontrer la préoccupation de Maître Juvenal dans la loi portant Organisation générale de la défense, l'article 2, le point 3, définit les intérêts fondamentaux. Donc, comme l'a dit l'honorable Boulay, on ne peut pas tout citer ici, mais la forme républicaine des institutions, l'intégrité, c'est-à-dire ce que l'armée doit défendre, le point rouge que nul ne peut franchir. Et là, je note qu'on n'a pas mis la santé publique. Tout simplement, mais je crois que c'est il ne faut pas non plus être paralysé par le perfectionnisme. Alors, vous venez de le dire, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est Maître Juvenal, les États-Unis continuent à améliorer leur structure de défense. Et nous aussi. Mais ceci n'est qu'un premier pas. C'est une plateforme de lancement. Parce qu'en plus, il faut intégrer un certain nombre de risques modernes. Quand on parle du budget, il ne faut pas se faire d'illusions. Normalement, pour une armée de 100 000, à l'état où nous sommes, et voulant en faire une armée vraiment professionnelle, il faut au moins 10 milliards, rien que pour la défense. Alors, avec notre budget, quand est-ce que nous allons atteindre ça? Donc, il faut beaucoup de maîtrise.
De la moitié du projet de budget actuel.
Donc, du double, pratiquement. Donc, il faut faire d'abord une projection dans le temps, mobiliser les récepteurs et les moyens de capture de ces récepteurs pour se dire que, en réalité, nous allons trouver des solutions structurelles à telle date. Parce que lorsque l'honorable Boule parle de la formation, etc., les gens croient que la formation, c'est un coût pas cher. Non, il faut payer. Équipez-les, disons qu'on voudrait vous envoyer aux États-Unis. Il faut que vous soyez correctement habillé. Il faut que vous soyez préparé à représenter notre armée. Il faut être drillé, il faut être ceci, il faut être cela. Donc, ce sont des budgets, malheureusement, dont les effets ne sont pas visibles, dont la nécessité n'est pas visible. On voit un bel officier, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et il faut combien de tenues par an.
Maître Juvenal, avec tous ces éléments avancés ici, peut-on craindre finalement que cette réforme de l'armée congolaise ne puisse traîner, ne puisse durer encore très longtemps?
Je pense que si on veut bien faire les choses, il faut que ça prenne les pas à prendre pour qu'on ait finalement un bon résultat. Je voudrais donc que l'on garde l'optimisme et de considérer que c'est possible. C'est possible qu'on ait effectivement une armée d'excellence, non seulement une armée qui réagit rapidement lorsqu'il y a des menaces, c'est ce que nous voulons d'ailleurs qu'on arrive à cette phase, qu'on ait aussi une armée d'excellence avec des services diversifiés, avec un niveau au sein des éléments suffisamment avancés en matière de droit international humanitaire, comme je le disais. Et qu'il y ait aussi un autre aspect qu'on semble parfois négliger, c'est les relations qui doivent exister entre la population et les militaires. Donc, il ne faudrait pas que ce soit continuellement des relations de suspicion, que voilà, ils arrivent pour nous rançonner et tout ça. Et donc, je veux dire ici que je vais appeler, moi-même je suis optimiste, et je voudrais appeler tous mes compatriotes à l'optimisme, c'est possible d'avoir effectivement une armée qui nous crédibilise davantage sur le plan, tant sur le plan national que sur le plan international, mais il faut travailler. Si l'on veut bien avoir dans 10 ans une armée professionnelle, eh bien il faut maintenant commencer. Maintenant que l'on est en train de mettre sur pied le cadre juridique, c'est une bonne chose, il faudrait que les autres États qui suivent. Même si on ne saura pas avoir un budget qui s'étend sur 10 ans, parce que vous avez évoqué vous-même, disons, l'un de vos prédécesseurs a évoqué le contrat budgétaire, eh bien, il faudrait au moins, au cours d'une année, qu'on sache qu'on ait quand même des prévisions et qu'on se dise, voilà, au cours de cette année, nous allons réaliser assez de choses avec de tels indicateurs de performance, et je pense que nous allons y arriver avec cet esprit d'optimisme. Et surtout le partenariat, qu'il ne faut pas négliger, partenariat entre le gouvernement et la communauté internationale, ça existe déjà, parce que, je me rappelle, l'Union européenne a aidé dans l'opération de la maîtrise des effectifs, récemment biométrique. Il faut aussi un partenariat solide entre le gouvernement et la société civile. Merci. Je me dis qu'il faut un comité de suivi, je ne sais pas si ça existe, un comité de suivi de la réforme de l'armée, comme il existe un comité de suivi de la réforme de la police.
Merci. Merci, maître Juvenal. Honorable Boulin, nous abordons la dernière partie de cette émission. Il va falloir conclure. Je vous ai vu noter instamment, quand maître Juvenal parlait de cette collaboration. Brièvement, c'est ça votre conclusion.
Je voudrais lui dire tout simplement que toutes ces préoccupations trouveront des réponses en ce qui concerne le statut général des forces armées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'armée n'a pas droit à se syndiquer. Il y a certaines choses qui, certainement, vont trouver des réponses là-bas, les salaires, le recrutement et tout ça. Et aussi, les partenariats, ben, ça c'est les partenariats, ce n'est pas à l'Assemblée nationale, c'est au gouvernement. Merci de conclure des accords avec des pays amis qui veulent nous accompagner. Merci. Dans ces réformes. Et je crois que nous en avons.
André Alain Tondo, un mot aussi pour conclure. Le partenariat avec la communauté internationale concernant l'armée n'est pas que une solution à nos problèmes, parce qu'elle peut en créer. On n'a pas le temps, mais je voudrais rappeler quand même pour l'histoire que le général Molongia, à l'époque, avait soulevé la problématique de ces multiples partenaires.
Merci. Merci, André Atondo. C'est par vous que nous terminons cette émission. Restez branchés sur Radio Capital. Thank you.
Thank you.